VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Nord. En Algérie, le Parlement algérien lance aujourd'hui les débats sur une loi controversée sur les hydrocarbures. Législation contre laquelle de nombreux Algériens ont manifesté, estimant que ce texte revient à brader les richesses du pays aux multinationales étrangères. Critiqué ou soutenu dans les médias depuis plusieurs semaines, la loi adoptée le 14 octobre en Conseil des ministres n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle et des moutures différentes ont circulé dans les médias. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un puissant mouvement de contestation qui a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à la démission en avril, après 20 ans à la tête de l'État. La campagne de protestation continue avec des manifestations chaque mardi et vendredi en faveur du départ de l'ensemble du système au pouvoir. En Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, un juge d'instruction a procédé à ses premières auditions dans une affaire de corruption présumée dans les secteurs du pétrole et du gaz. Une affaire dans laquelle est cité le nom d'un frère du président sénégalais, Idriss Fall.
Au moins 3 personnes ont été entendues hier par un juge d'instruction à Dakar, dont le journaliste Mamadou Mout Bané et l'opposant député Mamadou Lamine Diallo, très critique vis-à-vis du frère du président. Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timis, est au cœur d'un scandale. Selon une chaîne britannique, la société a versé une prime secrète de $250,000 au frère du président Alu Sall, ce que celui-ci a démenti. Alu Sall, maire de Guédiawaye, a démissionné le 24 juin de la Caisse de dépôt et consignation, une institution financière qu'il dirigeait depuis 2 ans. Le gouvernement a ordonné une enquête. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a lancé en juin un appel à témoins pour que les détenteurs d'informations sur la gestion du pétrole et du gaz puissent les livrer à la justice. Ainsi, plusieurs personnes ont été auditionnées par la division des investigations criminelles, la police judiciaire. La DIC a remis son rapport au procureur qui a saisi un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire.
Piraterie dans le golfe de Guinée. 9 otages philippins, tous membres de l'équipage d'un bateau norvégien, ont été enlevés le week-end dernier au large du port de Cotonou au Bénin. Et hier encore, 4 personnes ont été kidnappées à bord d'un pétrolier grec près du port de Lomé au Togo. Des incidents qui prouvent la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée. Irénée Amanoumbo a joint à Accra le colonel Abdourahmane Dieng, chef de la division de la sécurité maritime de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le colonel Dieng nous parle des dispositifs mis en place par l'organisation sous-régionale en vue de mieux contenir le phénomène de la piraterie dans le golfe de Guinée.
La région est actuellement en montée en puissance en ce qui concerne la mise en place de son architecture de sécurité maritime. Nous avons déjà développé justement donc une série de zones, zone I, zone F et zone G, en éclatant justement donc les pays de l'Afrique de l'Ouest en ces 3 groupes. Et chacune des zones est actuellement gérée par un centre maritime multinational de coordination. Et donc, ces centres s'appuient sur les centres opérationnels des États qui, en retour, observent ce qui se passe au niveau donc de la mer et remontent justement donc ces informations. Et au-delà de cela, justement, donc, on est en train de développer des synergies qui permettent d'avoir des plans d'opération au niveau de chaque zone entre les marines afin que les zones soient patrouillées et que donc on puisse prévenir ces gens.
C'est une réalité aujourd'hui, une réalité inquiétante. Comment prévenir cette insécurité?
Nous avons mis en place une architecture de sécurité maritime qui va de l'Angola jusqu'au Sénégal et toute la frange côtière est divisée en zones et dans chaque zone, on est en train de mettre en place un plan d'opération qui permet justement donc une synergie des moyens et donc de pouvoir patrouiller et de surveiller cet espace-là. Mais quand vous regardez bien, ce ne sont pas que les États qui interviennent dans ces parties-là. Nous avons tous les autres acteurs qui doivent être en mesure de jouer le jeu. Il y a une histoire de confiance qui va falloir justement donc développer entre l'industrie en général, les États qui doivent intervenir à temps, les centres d'utilisation de marine de coordination. Quand vous voyez des problèmes et que l'on essaie de trouver des solutions, on fonctionne comme les États. Et les criminels se mettent toujours à l'extérieur des systèmes pour couper en fait. Mais au fur et à mesure justement qu'on va voir les gars se posent devant nous, nous y porterons justement donc les éléments de réponse. Au moment où nous vous parlons, une opération est en train de se dérouler. L'ensemble des États membres de la CEDEAO, j'allais dire du Golfe de Guinée, sont actuellement mobilisés dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération Grand African Nemo, qui met en œuvre les marines de notre région avec la marine française, des marines d'autres pays partenaires qui viennent du monde entier. Et nous sommes en train justement donc de faire en sorte de naviguer et de monter justement donc des opérations combinées. Et dans le cadre de la sécurisation du Golfe de Guinée.
Le colonel Abdourahman Dieng, chef de la division de la sécurité maritime de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
VOA Afrique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a exhorté les Maliens lundi soir à l'union sacrée derrière leur armée, alors que l'existence même du pays est en jeu, selon le chef de l'État, après les attaques les plus meurtrières lancées par les djihadistes depuis des années. Dans un message à la nation publié après un nouveau week-end meurtrier, le président malien, qui avait décrété plus tôt dans la matinée 3 jours du deuil national, souligne la gravité de la situation. Ibrahim Boubacar Keïta met en garde contre la tentation de tomber, je cite, dans le piège de l'ennemi, qui est de nous opposer les uns aux autres et de saper le moral de nos vaillants combattants, dit-il. En Guinée, poursuite de la campagne du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, pour barrer la route à ce que l'opposition qualifie d'effort du pouvoir pour faciliter un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Deux jeunes gens sont morts hier à Conakry, la capitale. C'était à l'occasion d'une marche organisée par l'opposition pour enterrer les Guinéens tués lors des récentes manifestations contre le projet de se maintenir au pouvoir attribué au chef de l'État. La manche a dégénéré en de nouveaux affrontements avec les forces de sécurité. Les précisions d'Irénée Armand Umbo.
Des centaines de Guinéens ont défilé à pied et à moto dans le quartier de Bambeto derrière les cercueils couverts du drapeau national. Le cortège escandait des slogans du genre « Justice pour les morts » et « Alpha assassin ». Les affrontements avec la police ont éclaté sur le trajet entre la morgue et l'hôpital où les familles de l'opposition avaient récupéré les corps et la mosquée où était prévue la prière avant l'inhumation. Des groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre les policiers et les gendarmes qui ont riposté avec du gaz lacrymogène et des dents de projectiles anti-émeutes et à balles réelles selon plusieurs témoignages. Le Front National pour la Défense de la Constitution proteste contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé.
Actualité hors d'Afrique maintenant. En Irak, la contestation a repris un tour violent avec des affrontements à Bagdad, la capitale. Les forces de sécurité ont tiré lundi sur des manifestants pour la première fois en 10 jours près du consulat iranien. À Kerbala, une des villes saintes de l'islam chiite. Le point avec Abdourahman Dia.
Hier soir, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui avançaient vers le siège de la télévision d'État à Bagdad. Des affrontements ont eu lieu également aux abords de rues menant vers l'ambassade d'Iran. Les manifestants ont jeté des pierres alors que les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes. Avant-hier nuit, 4 manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient d'incendier le consulat iranien à Kerbala, ville sainte chiite au sud de Bagdad. À Najaf, l'autre ville sainte chiite, les manifestants ont symboliquement effacé le nom de la rue Imam Khomeini pour la renommée rue de la Révolution d'octobre. Depuis dimanche, la désobéissance civile paralyse les routes, les infrastructures pétrolières et les administrations. Depuis quelques jours, la colère des protestataires qui réclament la chute du régime se concentre sur l'Iran. Le général Qassem Soleimani, commandant des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, a multiplié les visites en Irak. Et les commentaires du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui dénonce un complot américain et israélien, ont exacerbé la colère des Irakiens.
Et pour terminer, en Iran, le président iranien Hassan Rouhani a annoncé ce mardi une nouvelle réduction des engagements pris par son pays devant la communauté internationale concernant son programme nucléaire. L'Iran va reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium dans son usine de Fordo, à quelques 180 km au sud de la capitale Téhéran. Des activités gelées depuis l'entrée en vigueur de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Selon le président iranien, il s'agit de la quatrième étape du plan de réduction des engagements iraniens en matière nucléaire lancé en mai en riposte au retrait des États-Unis un an plus tôt de l'accord de Vienne.